Alors, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons traiter de ce sujet qui est l'essence même, la profondeur même de Pourim, à savoir le secret d'Amalek, le secret du souvenir d'Amalek. En effet, Pourim, sans cette connaissance, sans cette mise en place, reste, j'allais dire, des jours assez vides de sens et bien entendu remplis de d'autres choses qui nous masquent, ce n'est pas un jeu de mots, l'essentiel même de ces jours secrets. C'est-à-dire que la nature sait offrir des remplacements à l'essentiel, pour justement nous laisser en dehors du sens essentiel des choses. Alors la paracha de Zachor, elle est toujours avant Pourim, comme préparation à Pourim. Et il faut comprendre pourquoi, quel est le sens de ce Amalek, qui est ce Amalek. On va essayer, Be'ezrat Hashem, de développer cela ensemble. Voilà, menu meyusad ala dialectica. Notre monde est fondé sur la notion de dialectique, c'est-à-dire une idée, rayon, offro l'inverse de cette idée, ou besofo shel davar hamerkaz hamegaleh et harmonia benem. Il y a une partie centrale qui va dévoiler, qui va révéler l'équilibre et l'harmonie entre cette formule donnée et son antithèse. Dans le langage des sages de la Kabbalah, il s'agit donc de Chesed, Gevura et Tiferet. Chesed étant l'ouverture vers le don, vers le partage, vers l'autre, vers la sortie de soi. La Gevura, exactement l'inverse, la retenue, la concentration des choses, le fait de pouvoir se maintenir avec des limites, et la phase centrale, qui est la phase qui va relier ces deux forces pour en faire un équilibre parfait qu'on appelle la Tiferet. En philosophie, on connaît cette même formule par la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et donc en réalité, il s'agit là d'un triangle que je viens de dessiner. Et donc il y a ici quelque chose de fondamental, j'allais dire même de primordial et d'essentiel à toute compréhension. Mitochotamafachim, donc à partir de ces inverses, on peut prétendre se rapprocher de la profondeur d'une certaine idée, des idées en général, par un regard qui est complet et donc équilibré. L'équilibre exige, je le rappelle, une prise en compte des extrémités pour justement trouver une phase médiane qui va conjuguer les deux possibilités précédentes. Dans la bouche du Maharal de Prague, Hayesod hazeh moreh lanu, ce fondement même nous enseigne que la compréhension d'un sujet quelconque exige de nous-mêmes l'apprentissage de son inverse. Par exemple, donne le Maharal de Prague dans Netzach Israël que c'est seulement en comprenant l'exil que nous pouvons parler et comprendre la Géoula. Si on ne parle pas de l'exil, si on ne parle pas de la galoute, on ne parle pas de la Géoula, on ne peut pas comprendre les choses véritablement. Bien entendu, ce n'est pas le Maharal qui a inventé cette notion. Ce fondement existe déjà dans le Zohar Kadosh et dans la formulation du Zohar, Let Nehora, il n'y a pas de lumière, si ce n'est Migo, Chashucha, à partir du noir. Je ne peux pas considérer la lumière si je ne parle pas du noir, de son inverse. Moralité, le Zohar est, après lui, tout ce qu'on vient de citer, comprend un phénomène qui est lié à la structure même de ce monde, où tout sujet étudié exige la compréhension, en tout cas l'approche de son inverse, pour essayer de comprendre le sujet en question. Donc chaque fois que vous voulez comprendre quelque chose, il faut étudier son inverse. Hanachat ha-yesod hazeh, ce fondement-là, étant établi, movila be'ofen tiv'i la maskana, nous rapproche naturellement à la conclusion suivante, ki rak be'avana takoach ha-menugad, c'est seulement en comprenant la puissance inverse, contradictoire, à ce qui s'est passé à Pourim, et à ce qui se passe à Pourim, eh bien, c'est seulement avec cette condition-là, à cette condition-là, nitan le'avin be'emet et godel hayamim halalu, on peut comprendre le secret de ces jours de Pourim. Et donc, hefer omkam shel yemei Pourim, l'inverse même de la profondeur, de l'essence des jours de Pourim, ganous beklipat amalek. Bien, c'est exactement la notion de cette écorce qu'on appelle Amalek. Alors avant d'avancer, on comprend que Amalek est une klipa. Selon nos sages, ce n'est pas seulement un peuple, c'est une écorce qui vient cacher, qui vient obstruer, qui vient éteindre, qui vient faire écran à quelque chose de très profond. Sans comprendre donc le but même de Amalek, son essence et son engouement, j'allais dire, à détruire quelque chose chez Israël, eh bien on ne peut pas atteindre la véritable profondeur des jours de Pourim. Pourim n'est pas une fête, ce sont des jours. Yemei HaPourim, même si dans la chanson on parle de Chag Pourim, ceci est une erreur. Il n'y a jamais cette notion de Chag à Pourim. Il n'y a que trois Chagim, Pessah, Shavuot et Sukkot. Pourim, comme il est dit dans la Megillah d'Esther, Yemei HaPourim, les jours de Pourim. Là aussi, il y a une profondeur à connaître, à déceler. Je vous ai donné un petit peu la formule, ce qui veut dire que Pourim est un degré, est à un degré qui, malgré son placement dans l'espace-temps, est de l'ordre du non-espace et du non-temps. Comme d'ailleurs le Yom HaShabbat. On ne parle pas de Chag Shabbat, on parle de Yom HaShabbat. Eh bien, Yom HaShabbat, Yom HaKippurim, Yemei HaPurim. Tout ce qui est Yom nous invite à une profondeur beaucoup plus élevée que la notion de fête et de temps. Ce que je viens de dire par rapport à Pourim, nous le voyons dans l'un des versets de la Megillat Esther, Venahaforu. Venahaforu, nous avons pu inverser un certain processus. Qui dit inverser le processus, dit automatiquement entendre le degré profond de Pourim. Et donc j'ai ici quelque chose qui est très puissant, et on va essayer déjà de jouer avec les mots, car en hébreu, vous savez que les mots ne sont pas là seulement pour nous indiquer une histoire, mais sont là pour nous ouvrir une porte secrète sur des notions qui sont cachées à l'intérieur même de ces véhicules que nous appelons les lettres hébraïques. En hébreu, le mot « lettre » veut dire « acheminer »,« apporter »,« amener vers quelque chose ». Et là, les lettres nous amènent vers une compréhension. Déjà, la notion de Amalek, si je devais décrypter ce mot, J'ai le mot âme, qui veut dire peuple, et deux autres lettres, le lamed et le kouf. Ça veut dire que Amalek, dans son essence, dans son écriture, est là pour avaler le peuple. Nous avons donc une indication extraordinaire, c'est que Amalek, c'est la contradiction déjà, l'inverse même de la notion de peuple dans le judaïsme. Alors je vous invite immédiatement à une conclusion intermédiaire. Si vous considérez que l'histoire de Pourim est une histoire personnelle, individuelle de certains juifs, et non pas une notion collective du peuple, eh bien vous pouvez facilement rater cette journée. Bien entendu, vous allez vous remplir de tout ce que l'histoire nous offre, des déguisements, des repas, des mishlochemanot, c'est très sympathique, très beau, mais en réalité, ça peut rester au niveau du rituel et on peut rater l'essence même de ces jours. Notion de peuple, donc essentielle pendant les deux jours de Pourri. Et voici le texte de la Torah. Zachor et asher asa lecha Amalek, souviens-toi, d'une manière active, j'allais dire, parce que ce n'est pas un souvenir au niveau de la mémoire passée, passive. Là, il y a ici une mémoire active du mot Zachor qui est dans la même racine que Zachar, le masculin. C'est-à-dire que c'est un souvenir masculin, donc actif. Souviens-toi, rappelle-toi activement et asher asa lecha Amalek, avec ce que t'as fait Amalek. Baderech betzetrem mimitzraim, lorsque vous êtes sorti d'Égypte. On remarque immédiatement que le début de la phrase est au singulier. Souviens-toi de ce que t'as fait à toi, Amalek. Et immédiatement, on passe au pluriel. Betzetrem mimitzraim, lorsque vous êtes sorti d'Égypte. Il y a donc ici quelque chose qui est primordial, qu'il faut comprendre. C'est que Amalek va déconnecter l'homme de la nation. Et donc Amalek va s'attaquer à l'individu, parce qu'il ne peut pas s'attaquer à la nation, bien que son idéal c'est de manger la nation d'Israël, eh bien il ne peut pas le faire, de facto. Et donc, il ne lui reste qu'à déconnecter les détails, les membres de ce peuple, de cette notion de peuple. J'espère que je suis clair. C'est-à-dire que si Amalek arrive à vous détacher de votre peuple d'une manière quelconque, que ce soit au niveau de l'histoire, de l'identité, de l'espace et du temps, eh bien, il a gagné son combat. Et donc, il va m'atteindre, chas v'shalom, au niveau de l'individu, alors que mon histoire est une histoire collective. Et là, on revient donc, parce que c'est à toi, asher karcha baderech. Rappelle-toi ce qu'il t'a fait, il t'a refroidi en route. Vayezanev becha, toujours au singulier, et il t'a attaqué à la queue. À la queue, à l'arrière, en dehors de la notion de peuple telle que nous allons le voir dans quelques minutes. Vayezanev becha, et qu'est-ce qu'il a attaqué dans le mot zanav qui veut dire attaqueux, et kol hanechshalim acharecha, tous ceux qui sont de l'ordre du nachash. Il y a ici donc une référence au serpent. Acharecha qui marche derrière toi. Ve'ata, et toi. Là, il y a un récit de ton état d'esprit. Ayef ve'yagea. Tu es fatigué dans tous les sens du terme. Ve'lo yare Elohim. Et tu n'as plus la crainte de Elohim. Vous voyez qu'il y a ici, donc, une formule secrète, une formulation secrète de la Torah, pour nous indiquer en fait tout ce que représente l'antithèse de Pourim. Et si je ne comprends pas la phrase que je viens de citer, que j'ai coupée bien entendu parce qu'elle est un petit peu plus longue, c'est un paragraphe entier que nous devons une fois par an entendre dans la lecture de la Torah le Shabbat, justement le Shabbat avant Pourim, Shabbat Zachor. Eh bien, si je rentre à Pourim, si j'entame Pourim sans avoir compris, intégré le phénomène Amalek, eh bien, je risque, encore une fois, facilement de rater la teneur de ces jours. Et c'est dommage parce que Pourim est une préparation à la Géoula de Pessah. Ça veut dire que c'est un mouvement en chaîne. Et si je rate la première étape, eh bien même ma sortie d'Égypte ou ma sortie d'exil, ma délivrance dans le mois prochain de Nissan sera moindre. J'espère que les choses sont claires. Donc, première notion, Amalek mofia tamid baderech. Amalek apparaît toujours en chemin. Baderer, sous-entendu, tu as déjà un chemin. Donc tu as déjà un sens à ta vie. Tu as donné une direction. Tu es en train de rentrer dans un mouvement, mais ce mouvement n'est pas anodin. Dans quelle direction est cette route? Betzetrem Mitzrayim. Quand tu sors d'Égypte. Autrement dit, à chaque fois que tu vas faire cet effort de sortir d'Égypte, eh bien, tu auras Amalek qui va se présenter sur ta route. Moralité, on doit le savoir. Dès que, au niveau collectif, et bien entendu au niveau individuel, nous avons décidé de nous en sortir, de nous tirer d'affaire d'une certaine complexité, d'un certain exil, d'un certain étouffement, d'un certain embêtement, d'un certain piège dans lequel nous nous sommes mis, à chaque fois que tu voudras t'en sortir, va venir cette notion de Amalek pour essayer, tenter de t'en empêcher. Comprenez bien que sortir d'Égypte, c'est commencer à évoluer en tant que l'identité d'Israël que je suis. Et donc à chaque fois que je vais vouloir revenir à mon identité première, Amalek sera présent pour essayer de m'embrouiller, pour essayer de me mettre des doutes et de me mettre des bâtons dans les roues. Donc à chaque fois que vous avez dans votre vie décidé d'avancer, vous avez eu un semblant d'Amalek qui s'est présenté à vous, il va falloir donc le combattre. Il aura fallu combattre ce Amalek pour avancer. N'oubliez jamais que nous sommes sortis d'Égypte, pas pour sortir d'Égypte. Nous sommes sortis d'Égypte, certes, mais nous avions une direction. Cette direction était une direction nationale qui nous amène, en fait, pas seulement à la terre en tant qu'espace donné, mais ce lieu dans lequel je vais ériger un état, donc une structure de royaume, de souveraineté, avec une économie, avec une armée, avec une structure d'état, gouvernement. Donc à chaque fois que le peuple juif, et là je résume un petit peu, est sur le point de fonder son état, Amalek va apparaître sur la route. Et il va apparaître en sortant de ton piège, donc l'Égypte, et la veille de ton entrée en Israël, donc l'aboutissement. Jamais au milieu, au début ou à la fin. Dès que tu sors d'Égypte et l'instant avant que tu entres en Israël, c'est-à-dire au degré ultime que tu t'es fixé. Obetrilata derech, obesiuma. Donc Amalek a cette propriété de venir attaquer au début et à la fin. Okay? Hu tokef et Am Israël, donc son attaque, vient contre le peuple d'Israël. Encore une fois, il ne peut pas le faire directement contre le peuple, parce que la notion de peuple d'Israël est une notion qui dépasse l'entendement d'Amalek. Il ne peut pas l'appréhender. C'est une notion qui touche le tétragramme. Je ne veux pas maintenant rentrer dans les notions kabbalistiques, mais Amalek ne peut pas atteindre ce degré. Et donc, il va s'attaquer à qui ? Aux individus. Je vais vous donner l'exemple d'un corps humain. Amalek ne peut pas s'attaquer à l'homme. Il va s'attaquer aux petites cellules de son corps. Il va faire en sorte qu'une des cellules, qu'un membre du corps, ne reconnaisse plus son appartenance au tout. Est-ce que je suis clair? Et au moment où le petit membre ou la cellule en question ne reconnaît plus son appartenance à l'ensemble, eh bien c'est un cancer. Donc Amalek va causer une forme de cancer en détachant les individus d'Israël de la notion du tout Israël, du klal Israël. Donc à chaque fois qu'un homme d'Israël se retire de la notion du tout, eh bien il est déjà lui-même en train de jouer le rôle d'Amalek sans même que personne ne vienne l'embêter de l'extérieur. Bismanim shel choser yatzivut. Et quand est-ce que ça se passe généralement? Eh bien, lorsque tu n'es pas dans une stabilité, tu es dans un mouvement. Or, lorsqu'on marche, baderech, nous sommes toujours en danger. En hébreu, kol hadrachim bechezkat sakana. À chaque fois que nous sommes en route, nous sommes en danger. Parce que nous sommes sans arrêt en train de chuter. Je vous rappelle que la marche est une chute permanente, continuelle. Je tombe et je me repose sur le pied opposé. Mais en fait, je tombe. Donc marcher, c'est tomber constamment. Pour avancer, tu tombes sans cesse. Et donc Amalek va utiliser ce moment-là que nous citons dans le Kriyat Shema, Belechtecha baderech. Lorsque tu es dans ton chemin, au moment de ta marche, et je dirais plus au niveau psychologique, de ta démarche. Dès que tu as une démarche, une prise de conscience, une idée en tête, dans laquelle tu veux avancer, tu as pris une décision énorme dans ta vie, sache que ce mouvement-là invite automatiquement Amalek. Méfie-toi. D'accord? On va te mettre des bâtons dans les roues. Amalek mekarer et talahat. Alors, quelle est la première action de Amalek? D'abord, il te refroidit. Je vous rappelle le verset, Asher Karcha, qui t'a refroidi. Donc, il refroidit ton élément de décision. Ta décision est tellement importante que 2 heures plus tard, tu as l'impression que bon, c'est n'importe quoi, j'ai dû avoir une idée, je me suis exalté, je suis monté en mayonnaise. Et en fait, Amalek va venir te réduire toute cette exaltation, toute cette puissance, tout ce désir qui est monté en toi lorsque tu as pris cette décision, il va tout rabaisser. Il va tout éteindre. Et les sages nous donnent l'exemple d'un bain bouillant dans lequel il s'est jeté lui-même pour refroidir l'eau pour que les enfants d'Israël soient rassurés. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une douche bouillante avec de l'eau très chaude, et Amalek juste pour refroidir cette eau, pour ne pas qu'Israël reste dans cette chaleur, dans ce mouvement, eh bien, il vient refroidir tout ceci. Et donc, il va refroidir dans tous les degrés d'avancement, Bechol Ma'alach Elyon, à chaque fois, et plus la notion est importante, plus le refroidissement est visible. Et il va s'attaquer donc aux grands, beaucoup plus qu'aux petits, à ceux qui veulent justement avancer. Comment est-ce qu'il fait ça? Où met-il sa fek? D'abord, il va mettre un doute. Alors, les Chachamim nous ont signalé que le mot « safek », qui veut dire le doute, en valeur numérique, c'est 60 plus 80, c'est 140, plus « kouf » 100, 240. Exactement la valeur numérique de Amalek. Ça veut dire « Amalek », c'est le 240, c'est le doute. Et donc Amalek va jouer sur ton intellect et va te mettre en doute et c'est comme ça qu'il va refroidir tous tes mouvements. Et donc, où est-ce qu'il va placer son doute? D'abord et avant tout, Bakesher ben Elohim ou ben Ahistoria Enoshit Bichlal. D'abord, dans le lien existant entre Dieu et l'histoire humaine, d'une manière générale, ça veut dire que Amalek va te pousser à arriver à une conclusion qui est complètement erronée, que Dieu n'a aucun rapport avec l'histoire humaine. Que toute l'histoire humaine, c'est une histoire qui se développe sans aucun sens, c'est aléatoire, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'un Dieu qui dirige tout ce phénomène. Ça, c'est le premier degré d'Amalek. Rappelez-vous bien que nous parlons de nous-mêmes. À chaque fois que tu te poses ce genre de questions, et ça arrive, hein, à chaque fois que tu te dis, peut-être qu'on est en train de se la jouer, il n'y a ni Dieu, ni rien du tout, on est dans une histoire qui n'aboutit à rien, on ne voit pas du tout un cheminement divin dans cette histoire, sachez que c'est un petit morceau de Amalek qui est en train de pénétrer votre conscience. Ou Bakesher, d'autant plus qu'il va faire ce travail concernant le lien entre le divin et le peuple d'Israël d'une manière particulière. Et donc Amalek va pénétrer encore plus dans la résolution Israël pour essayer de déconnecter, de mettre en doute qu'il existe un lien entre un créateur et sa propre création, entre le fait que Dieu ait créé le monde et qu'il dirige ce monde, entre le degré de ce Dieu qui a choisi Israël pour apporter la lumière au monde. Tout ceci est mis en doute. Tout ceci est refroidi. Tout ceci est éteint. Je vous rappelle, c'est encore important, je le fais par souci d'éducation. C'est une manière d'informer les choses. Si à Pourim, vous entrez sans cette prise de conscience, sans cette certitude qu'il y a un maître du monde qui a créé ce monde et qui a choisi Israël pour apporter la lumière à ce monde, votre jour de Pourim n'est qu'un carnaval. D'accord ? Et donc, nous allons avancer, nous allons voir que la plupart des personnages, donc des acteurs de la Megillah, qui apparaissent dans la Megillah, dans l'histoire de la Megillah, tout leur but, c'est justement de contrarier le lien entre un créateur et l'histoire humaine. Je vais le dire avec des mots simples. Quand vous lisez la Megillah d'Esther, vous avez l'impression que tout se passe ici en bas et que Dieu n'existe pas. D'ailleurs, son nom n'apparaît pas volontairement. Parce que s'il apparaissait, à un moment donné, à un endroit donné, dans un verset quelconque, tu aurais pu croire que Dieu n'était que dans ce verset. Or, Esther, avec toute sa sagesse qui a écrit cette Megillah, pour nous enseigner que l'infini béni soit-il est omniprésent durant toute l'histoire, n'a jamais mentionné le nom de Dieu clairement dans la Megillah pour nous dire qu'il n'est pas à un endroit précis, parce qu'il est partout. Et donc il est inutile de le placer dans quelconque verset. Eh bien, tous ces personnages qui vont venir vont essayer d'éteindre ce phénomène de lien entre Dieu et les hommes. Donc, pour les acteurs de la Megillah, il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de brit contracté, une alliance, entre le créateur du monde et le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël est en fait abandonné à son histoire, abandonné par, même s'il y avait un Dieu, c'est fini. Et le peuple d'Israël est complètement dispersé, et sa dispersion parmi les nations prouve que son histoire n'est pas cohérente. Et là, c'est le bas qui blesse. Haman appuie sur ce point parce qu'il sait effectivement que le peuple d'Israël n'étant pas en train de jouer son rôle de peuple parce qu'il est en dehors de sa terre, et en dehors de sa terre, il ne peut pas jouer son rôle de peuple. En dehors de sa terre, ce ne sont que des individus qui habitent dans les mêmes quartiers, qui ont formé des communautés. Eh bien, Haman se dit, c'est le moment d'exterminer cette notion tout entière. Et s'il n'y avait pas la miséricorde divine, eh bien, il aurait réussi son programme. Parce qu'en réalité, Israël lui-même est rentré dans ce piège, n'ayant pas compris que l'exil était terminé après 70 ans et qu'il fallait entrer à la maison. Rabotai, ce que je suis en train de vous dire, ça nous incombe aujourd'hui. Vous comprenez bien que fêter Pourim à l'extérieur de cette terre d'Israël, eh bien, c'est comme si on n'avait rien compris à l'histoire. Parce que ça devient une fête religieuse, individuelle, où quelqu'un nous voulait du mal, il a voulu nous exterminer, très infantile, très premier degré. Et Dieu nous a protégés. Rabotai, c'est beaucoup plus profond que cela. Et d'ailleurs, Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, dans la Gemara qui traite de Pourim, dans Megillah, va nous dire la cause même de ce pogrom presque réussi de Haman, c'est parce que justement Israël a oublié son identité, sa terre, son lieu, sa géographie, son histoire, et est parti se réjouir et manger du pain des étrangers chez qui il se trouve. Rabbi Shimon bar Yochai, alav shalom. Berega she'am Israël mefuzar ou meforat ben ha'amim. Au moment même où, et je cite le verset même de Haman, c'est Haman qui dit ces paroles. Yeshno am echad. Il y a un peuple qui est un au départ, mais qui est mefuzar, éparpillé, sans ordre, désordonné, ou mephorad, découpé, ben ha'amim, parmi les nations. Voilà ce que dit Haman. Rabotai, Haman comprend le sens même de notre mal, de notre détresse. Et si Esther répète les mots de Haman pour les intégrer dans sa Megillah, c'est parce qu'elle veut nous donner un enseignement. Fais attention durant ton histoire de ne plus être éparpillé, séparé, en dehors de ta terre parmi les nations. À partir du moment où le peuple qui est un au départ est dans cette situation-là, c'est comme si il avait perdu sa ségoula. En tout cas, elle n'est pas activée au moment même où ça se passe, car il n'est plus au niveau de son peuple, il n'est qu'au niveau de ses individus. Et donc ça devient un ensemble de juifs. Ce n'est plus une nation. Ce qu'on appelle une communauté. Et donc, Chas v'Shalom, il perd cette notion de ségoula essentielle. Et donc, pour Haman, Nitan leha miro be'uma acheret. C'est le moment de changer le peuple d'Israël par une autre nation. Avec mes mots, vous avez toujours considéré que vous avez été élu en tant que peuple, en tant que nation. Oui, mais voilà, vous êtes en dehors de votre terre, donc vous n'avez rien à donner aux nations du monde. Donc Dieu, même s'il existe, il vous a chassé, votre lien n'est plus un lien, vous n'êtes plus sa bien-aimée, il est en train de mettre en place une nouvelle épouse. Et il va vous renvoyer, vous êtes déjà renvoyé, vous êtes déjà éparpillé. Donc vous êtes en dehors de son palais, en dehors de son royaume. C'est simple, hein? C'est très simple, Rabotai. À tel point que les prophètes nous disent qu'un enfant d'Israël qui se balade dans une rue en exil, lorsqu'un non-juif le voit, eh bien c'est la profanation du nom d'Hachem. Car ce goy, ce non-juif, dit de ce juif, Am Hachem Ele. Au départ c'était un peuple, Ume Arzo Yatsau, et ils ont quitté sa terre. Et le prophète nous dit, Vechilaltem et Shmi, Ézéchiel 37. Vous avez donc profané mon nom. Parce que vous m'avez rendu menteur aux yeux des nations. Moi, j'ai considéré avoir un peuple. Et vous êtes en train de vivre à l'inverse de ce que je suis en train de vous dire. Zéanisayon shel gnevat amalchut. Donc, moralité, si je veux résumer tout ce qui s'est passé dans la Megillat Esther, dans toute cette histoire de Pourim, c'est tout simplement s'octroyer la royauté d'Israël, l'enlever de la Kedusha pour le bien de la Touma. Avec des mots simples, Achashverosh et toute sa clique, Haman et tous les acteurs vont considérer que Dieu a lâché le peuple d'Israël et que ce sont maintenant les Perses de l'époque, les Iraniens de la nouvelle génération, qui sont les élus de Dieu et que le peuple d'Israël n'existe plus, donc il doit être exterminé jusqu'au dernier de ses détails, de ses membres. Vous êtes avec moi? L'histoire se répète. C'est exactement pareil. N'oubliez pas que la guerre que nous menons aujourd'hui à Gaza n'est que les prémices de la grande guerre qui est sous-jacente avec le véritable ennemi. L'Iran. Ce qui était là-bas se répète aujourd'hui. Bayamim hahem pasman hazeh. Et donc, il y a ici quelque chose de fondamental à ne pas oublier. Haman po'el bediyuk kemo hanachash. Haman agit exactement fidèlement au serpent initial dans l'histoire d'Adam et Ève. Qu'a fait le serpent à cette époque? Pita et Adam vechava, il a soudoyé l'homme et la femme. Leistapek beachilat et tzadat, en se nourrissant et en se suffisant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mibli litom me'etzachaim, sans pour autant goûter de l'arbre de la vie. Alors que l'Éternel dit aux hommes, à l'homme et à son épouse, Mikol etzagal achol tochel, je veux que tu manges de tous les arbres. Mais je te demande une condition, ne meurs pas. Mange sans mourir. Débrouille-toi. Ça veut dire quoi? Ben tout simplement, l'homme devait manger d'abord de l'arbre de la vie. Puisque Dieu lui dit, mange de tous les arbres du jardin. Je t'autorise. Même de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais mange de manière à ne pas mourir. Donc, si le premier homme avait mangé l'arbre de la vie, et après il avait mangé l'arbre de la connaissance, eh bien, il serait resté vivant. Et tout aurait été une autre histoire complètement. Le serpent a persuadé l'homme de manger l'arbre de la connaissance. Avec nos mots à nous, ça veut dire, fais confiance à ton intellect individuel et arrête de nous parler de notions de peuple et de Dieu et de vie qui est supérieure. Il n'y a rien d'autre que toi avec ton petit cerveau cartésien. Écoute-le, et c'est à toi de décider, tout seul, comme un grand, les critères du bien et du mal. Vous êtes avec moi? C'est tout. Ça veut dire que le serpent, son émission essentielle, c'est à vous d'être Dieu. Il n'y a pas Dieu à part vous. Vous êtes Dieu. Donc décidez du bien et du mal avec votre cerveau humain. Eh bien, c'est exactement ce que Haman va faire. Ce n'est pas par hasard que tout a commencé par une invitation au restaurant. Je vous rappelle que le serpent a invité Chava à manger au resto. C'est-à-dire sa première approche de Chava, c'est « Est-ce que tu veux venir? Je t'invite au restaurant, j'ai une superbe nourriture à te faire connaître. » Eh bien, Haman ne trouve rien d'autre à faire que de faire un festin avec Achashverosh. Tout commence de la même manière. Seulement, les acteurs changent. Là-bas, c'était le serpent avec Adam et Ève. Et là, c'est un serpent déguisé en Haman, Achashverosh, et tout le peuple d'Israël qui, malheureusement, ne vit plus comme un peuple, mais comme des individus qui essayent de se coller les uns les autres, qui ne sont toujours pas d'accord. Voilà l'histoire. Donc, « Ube'etzem dogel be'echolto shela Adam » donc le serpent comme Haman, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, les sages dans la Gemara nous posent la question d'où est-ce qu'on connaît Haman dans un verset de la Torah. Est-ce que vous avez Haman dans la Torah? On ne peut pas avoir Haman dans la Torah, c'est une histoire qui est parvenue après la fin du contexte biblique. Comment est-ce que je peux avoir Haman dans la Torah? Eh bien, attachez vos ceintures, les sages nous disent bien sûr qu'Haman il est dans la Torah. Il est dans le verset où le serpent va essayer de séduire Adam et Ève. Hamin ha'etz, est-ce que de l'arbre dont je vous ai demandé de vous méfier pour ne pas mourir, vous avez mangé? Hamin s'écrit comme Haman. Donc quelqu'un qui n'a pas de point, comme de le Sefer Torah, il n'y a pas de voyelle, eh bien, au lieu de lire Haman, tu peux lire Amin ou bien Haman, c'est pareil. Un enfant, si vous lui montrez ce verset dans Bereshit, il va dire Aman. Donc Haman se cache dans le récit serpentesque du rationnel humain. Et donc, son idée, c'est de dire à l'homme, c'est à toi de décider quant aux valeurs du bien et du mal dans ta vie. Donc, pour le serpent, pour Haman, tout est déconnecté d'un quelconque lien avec une source divine, et tout se développe dans ce monde selon le hasard complet. D'ailleurs, le mot Purim veut dire le hasard, c'est le sort. On ne sait pas, il n'y a rien. Et donc, moralité, l'histoire humaine n'a aucun sens. Toi, moi, le bien, le mal, tout ça c'est aléatoire. Ça ne veut rien dire. N'aie pas peur. Mange, consomme, profite. Il ne se passera rien. C'est ce que le serpent persuade Adam et Ève. Et Rouéa Olam, donc pour le serpent comme pour Haman, comme pour toute l'histoire de Purim, tout le monde entier et les événements qui se déroulent dans ce monde, comme par exemple la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la guerre, bien, Einam est la priamikre bilvad, c'est le fruit du hasard. C'est parce que les Arabes sont méchants, qui sont autour de nous, donc ils ont attaqué, et donc nous sommes là pour nous défendre. C'est tout, ça reste au niveau humain. Et d'ailleurs, pour les gens qui n'ont pas cette foi, cette certitude au niveau du divin qui intervient dans l'histoire humaine, eh bien, tout se résume à ça, c'est tout. Et vous écoutez les informations, et s'il n'y a pas Dieu, eh bien, tout est une question politique, machin, on va faire comme ci, on va essayer de faire comme ça. Comme dans la Megillah d'Esther. Alors que pour ceux qui ont cette conscience du roi divin qui dirige le monde, c'est le secret de la Hanhaga, de la conduite de ce monde, eh bien, il ne fait aucun doute qu'il y a un maître qui a donné un sens à l'histoire tout entière. Et qu'il se cache dans cette histoire. À tel point que le Rav Kook, le fils, disait, ne dis pas historia, mais hysteria. C'est pas l'histoire, mais là où ce Dieu se cache. Et d'ailleurs, nous devons dévoiler ce secret, ce phénomène. Et c'est pour ça que nous appelons ce parchemin Megillat Esther. Nous sommes là pour dévoiler. Megillat veut dire dévoiler. Esther, ce qui est paradoxal, ce qui est caché, ce qui est contradictoire, ce qui se cache dans l'histoire. Regardez la sagesse de la reine Esther qui nous a dit « Vous n'êtes là que pour dévoiler le Dieu qui se cache dans son histoire. Moins que cela, vous ratez votre venue dans ce monde. » Quelqu'un qui vit sans la conscience et la certitude, traduit par le mot émouna, que l'infini béni soit-il dirige notre histoire humaine, eh bien, n'a aucun sens à sa vie. Il est malheureux. C'est quelqu'un qui n'a aucun but, donc aucune raison de vivre. Donc Haman, c'est l'expression humaine de la force d'Amalek. Vous avez compris? Si vous voulez Amalek en forme humaine, prenez Haman, prenez Hitler, prenez tous les ennemis d'Israël qui se cachent dans des bunkers aujourd'hui et qui dirigent leurs terroristes à distance. C'est exactement la même chose. Ce sont toujours Amalek déguisé en personnage différent durant l'histoire humaine. C'est toujours la même sorcière avec des vêtements différents. Dont l'initial, c'est le serpent. Donc le rationnel humain, pour Haman, c'est Dieu. Dieu, c'est le rationnel humain. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un autre Dieu que ton propre rationnel. Et donc, pour Aman, sortir d'Égypte, et là, je touche une notion qui nous relie à Pessah, sortir d'Égypte, c'est contre toute son idéologie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte? Sortir d'Égypte, en réalité, c'est sortir des contextes de la nature. L'Égypte n'est pas seulement un pays. L'Égypte est un état d'étouffement, un état de conscience qui cloisonne la personne dans le rationnel. Vous êtes avec moi? Sortir d'Égypte, c'est dépasser le rationnel humain en se reliant au divin. Donc tu n'as pas besoin de sortir d'Égypte. L'Égypte, c'est ta maison. La nature, c'est ta maison. Tu n'as pas besoin d'en sortir parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas aucune force au-dessus de cette nature qu'on appelle Égypte. Et donc Paro va s'exprimer contre Israël. Vehu Yoshev Mimouli. Dans le texte traduit en français, et il est installé face à moi. Non, ça c'est une traduction première. Dans la véritable traduction, ce peuple d'Israël est contre moi. C'est mon antithèse. Moi, je considère que le monde, c'est l'Égypte. Et eux, ils ont une seule idée en tête, c'est se libérer des contraintes, des lois naturelles de ce monde. Vous êtes avec moi? Ce peuple-là est convaincu qu'il peut transcender les lois naturelles de la nature. C'est des fous. Et donc, Paro va dire, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que c'était le nom de Dieu, Mi Hachem, qui c'est ce Dieu-là qui se prétend être au-dessus de la nature? Qui est ce Dieu, ce tétragramme que vous me demandez d'écouter? Lo yadati, moi je n'ai aucune connaissance, aucun lien avec ce Dieu, soi-disant Dieu. Et donc je n'ai aucune raison de laisser Israël sortir d'Égypte. Il n'y a aucune raison de sortir d'Égypte. Restez ici. C'est ici que ça se passe. C'est le rationnel que moi, le pharaon, je représente, qui est la seule entité valable dans ce monde. Donc le pharaon, comme Haman, dit, il y a un peuple qui pense qu'il y a un étage supérieur au degré serpentesque de la pensée humaine. C'est des fous. Voilà. Ce sont des extraterrestres. Ils n'ont rien compris. Miprinazo, etzem haratzon latzet mimitzrayim. Donc, pour le pharaon et pour Aman, et pour tous ceux qui viennent contrarier le peuple d'Israël dans son histoire, c'est une antithèse à toute leur émouna. La nation du monde, pour eux, le rationnel humain, c'est lui le roi de l'univers. Il n'y a rien d'autre. Les lozikaron shelanu, donc, sans cette mémoire active dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Amalek, qui nous empêche d'avoir un lien avec cette neshama, qui transcende effectivement les lois de la nature, eh bien, les jours de Pourim vont rester vides de sens, chas v'shalom. Alors, je ne sais pas combien d'années nous avons vécu des jours de Pourim vides de sens. seulement pour faire un petit festin, un semblant de, bon, les nations du monde, ils ont leur carnaval, nous aussi, on a un carnaval juif. Le carnaval juif. Vous avez déjà entendu, je pense avoir parlé ça. C'est quoi Pourim? Le carnaval des juifs. C'est exactement comme l'exil, la synagogue, c'est l'église des juifs. Là, c'est pareil. Eh bien, non. Rabotai, la clé de Pourim, c'est se souvenir de ce que Amalek t'empêche d'être parce que tu es réellement au-dessus. Tu peux, en tant que peuple, transcender cette nature. Mais il va falloir au moins une fois par an dépasser ta conscience humaine, ton cérébral humain. Or, que faisons-nous le jour de Pourim? Eh bien, on fait tout pour justement dépasser le côté rationnel. On va faire un festin, pour bien rappeler ce festin dans lequel tout a commencé. Et à l'intérieur de ce festin, nous allons boire une quantité de vin qui va nous permettre de dépasser la conscience de l'homme. Ad de loyada. Puisque toute la clé, c'était les chol meetzadat. Mange de l'arbre de la connaissance, fais confiance à ton intellect humain et laisse Akadosh Baruch Hu tomber. Eh bien, à Pourim, on fait exactement l'inverse. Chayav inish le besume ad de loyada. Ad shiyagia le madrega shu kvar lo somech al daat atzmo ela al daat abore beatzmo. Vous avez compris ce que ça veut dire boire jusqu'à perdre sa conscience? C'est perdre sa conscience et sa confiance dans l'homme que je suis, juste pour placer une journée, hein. Attention, hein. Pas plus. Parce que ma conscience est importante. Mais quand est-ce qu'elle est importante? Le lendemain de Pourri. Quand j'ai déjà goûté l'arbre de la vie. Et en réalité, on te demande à Pourim de manger quoi finalement? L'arbre de la vie. Et donc, tu dois boire jusqu'à oublier l'arbre de la connaissance. Donc, si tu oublies l'arbre de la connaissance, tout ce que tu manges et tout ce que tu bois maintenant, c'est l'arbre de la vie. Eh bien, le lendemain, tu redescends à l'arbre de mes connaissances, mais cette fois-ci, tu es déjà passé par l'arbre de la vie. Donc, tu vas être éternel. Vous avez compris la clé? C'est énorme, Rabotai. Sans ça, Pourim, c'est n'importe quoi. Masechot, Rachanim, Shirim, Verikudim. C'est tout ce qui va te rester de Pourim. Et tu vas tourner 3 mois pour chercher un déguisement. Et Al-Hamar. Si tu ne comprends pas ce qui se cache derrière ce déguisement, Abelt. Comprenez le français? Je vous parle en français. C'est l'habil. C'est hevel varik. Moralité. Yemé à Pourim, les jours de Pourim viennent nous rappeler qu'on doit manger de l'arbre de la vie une fois par an. Et si je vous demande maintenant, quel est le jour le plus haut de l'année qui guérit toutes les difficultés? Eh bien, c'est Pourim. Parce qu'à Pourim, tu te nourris plus d'une nourriture cérébrale, rationnelle, logique, cartésienne, humaine. Non. Tu manges. À Pourim, tu manges du divin. Ata ochel elohut. Ata mafnim elohut. C'est ainsi qu'on doit approcher Pourim, Bezrat Hashem. Et pour ceci, il ne faut pas oublier ce qu'a t'a fait Amalek. Parce que qu'est-ce qui t'a fait Amalek? Et je résume tout le cours. C'est justement te faire oublier ça. Te déconnecter de ce degré supérieur pour te laisser dans le degré du petit que tu es devenu. Celui qui ne comprend pas pourquoi Dieu a choisi la nation d'Israël. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il fait quelque chose? Bien, sache que tout ce que tu fais ici, c'est relié à cette volonté divine. Et c'est ça tout le sens de la Megillat Esther. Be'ezrat Hashem, qu'on intègre cette notion, Shenafnim et Arayon Azé, sans lequel on ne peut pas rentrer à Purim. On peut rentrer, mais on sort vide comme on est entré. C'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai à la Vachalom, quelque chose de très grave dans le Zohar. Rov ha'anashim nichnasim rekim v'yotzim rekim. La plupart des gens entrent vides et sortent vides. Et on n'a plus le droit que l'histoire se déploie devant nous de cette manière. On doit prendre les rênes. On doit décider le jour de Pourim de nous laisser porter par les valeurs de l'infini. Pour le lendemain, revenir à la notion humaine qui est très importante. Mais j'ai d'abord mangé de l'arbre de la vie, donc je suis conscient maintenant de ce qui je suis. Toda rabba lekoulam et à dimanche.
Merci beaucoup, Arav. Toda rabba lekoulam. Vous allez recevoir l'enregistrement. Nous attachons avant Shabbat et pour les étudiants de dimanche, je vous dis à dimanche. Merci à tous d'avoir participé et n'hésitez pas à retrouver les Shiurim d'Orat Vekilim sur YouTube, sur la chaîne du Rav Yoel Ben Arosh, sur la chaîne du Rav Cherki, sur la chaîne du Rav Fison et sur Nishma. Il y a aussi pas mal de ressources pour vous.